Hackathon des territoires pour l'habitat de demain, une émission proposée par CDC Habitat sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous et nous sommes ensemble sur Radio Immo et Radio Territoria pour une heure d'échange autour de l'habitat, des usages, centrés sur les préoccupations que vous avez au quotidien et par les innovations au cœur des territoires. C'est une émission spéciale que nous avons menée pour CDC Habitat, opérateur global d'intérêt, d'habitat d'intérêt public, et nous sommes avec sa présidente Anne-Sophie Grave. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Eh bien écoutez, très bien.
Je suis ravi d'être avec vous. Au programme de cette émission, Anne-Sophie, on va travailler un peu sur la narration, le récit des événements qui ont été organisés par votre groupe au sein de chaque direction interrégionale qui a conjugué l'innovation, l'émulation collective et bien sûr les territoires, toujours centrés bien sûr sur le logement. Nous parlerons d'ailleurs de l'hackathon des régions que vous avez rassemblées sur le temps d'une journée dans les territoires, avec des élus, des architectes, des étudiants, des collaborateurs, pour réfléchir sur des problématiques globales et proposer des solutions adaptées. C'était le but aussi de cette journée. Alors, chez CDC Habitat, vous phosphorez en permanence autour de ces solutions. L'initiative que vous avez lancée provoque effectivement beaucoup d'émulation, je suppose, au niveau des directions régionales. Et à l'issue de chaque journée, d'ailleurs, vous avez composé un jury qui attribue, entre guillemets, un prix et qui félicite finalement cette formidable émulation sur des projets qui ont été retenus. D'abord, ce que je vous propose, Anne-Sophie, on est ensemble pour une petite heure, c'est d'un peu plus vous présenter. Voilà, qui êtes-vous ? Parlez-nous de CDC Habitat, déjà pour commencer, ensuite on entrera dans le vif du sujet.
Alors, CDC Habitat, effectivement, nous définissons comme un opérateur global de l'habitat d'intérêt public. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous allons, en fait, du logement très social, de l'hébergement d'urgence, au logement social, au logement intermédiaire, à l'accession sociale à la propriété. Et puis, on intervient aussi sur des sujets assez complexes, comme le redressement de copropriétés dégradées, de la rénovation en cœur de ville, pour prendre quelques exemples. CDC Habitat, c'est un groupe qui gère 530 000 logements, 20% de logements dits intermédiaires. Le logement intermédiaire, c'est quand on est à un niveau de loyer de 13% en dessous du marché. Et puis, 80% de logements locatifs sociaux. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire national, puisque l'outre-mer représente aussi une composante importante de notre groupe, puisque c'est à peu près 18% de notre parc qui se situe en outre-mer.
Alors, vous considérez, Anne-Sophie Grave, que le logement est un besoin de première nécessité ?
Oui, puisque j'irais un toit sur la tête, bah, c'est ce qui permet effectivement de pouvoir abriter sa famille, c'est ce qui permet de chercher aussi un emploi, c'est ce qui permet, j'irais voilà, de pouvoir construire une vie quand on démarre aussi dans la vie et dans la vie active. Mais c'est vrai aussi pour les étudiants, voilà, qui ont besoin. On fait aussi des résidences universitaires. On fait aussi, j'irais, on est présent aussi dans le médico-social avec des résidences professionnelles. Personnes âgées ou également la construction des pads. Donc on est vraiment sur l'ensemble des parcours de vie et on adresse effectivement cette diversité des besoins selon en fait son moment de vie, dans son parcours de vie.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que je rebondis sur, vous savez, la fameuse pyramide de Maslow, dans laquelle la vision maslonienne, c'est-à-dire du toit, en fait, représente la sécurité, mais aussi un marqueur social dans le groupe. Et ce que vous dites a d'autant plus importance dans le contexte, bien sûr, actuel. Et donc, je suis ravi que vous soyez là. Je vais juste rappeler à nos...
Et j'aurais pu rajouter, puisqu'effectivement, dans l'actualité, on a beaucoup parlé du pouvoir d'achat.
Mais bien sûr.
Et le logement, c'est, voilà, une des dépenses principale dans le budget des ménages.
Alors, vous avez raison, c'est la première dépense. Et pour certaines régions, ça représente 41% du volume total du revenu du ménage. Donc, on voit bien que c'est le sujet du jour. Je rappelle juste à nos auditeurs, si vous voulez bien, que vous avez été nommé à la tête du directoire de CDC Habitat en décembre 2020, c'est bien ça ?
Voilà, ça fait presque une année et demie maintenant. Voilà,
et vous avez une longue carrière dans le logement, vous êtes une spécialiste, donc c'est important. Et c'est intéressant cette approche multipolaire que vous avez chez CDC Habitat sur le parcours résidentiel, les modes d'habiter et les programmes. Alors ce que je vous propose à toutes et à tous et à vous Anne-Sophie, c'est qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet. On va parler de cette initiative incroyable que vous avez lancée dans les territoires. C'est parti pour les hackathons.
Hackathon des territoires pour l'habitat de demain, une émission proposée par CDC Habitat.
Alors, on va parler aujourd'hui, les amis, de cette initiative qui s'est déroulée au sein de CDC Habitat, dans l'Hexagone, le fameux hackathon. J'aime bien le terme, hein, hackathon. C'est assez moderne. C'est en fait, voilà, c'est un peu une agora recréée pendant une journée, qui crée de l'émulation avec différentes disciplines, qui a été organisée d'ailleurs dans chaque direction interrégionale, de l'Est au Sud, au Nord, enfin partout, voilà, tout simplement. Alors moi, la première question que j'ai envie de vous poser, Anne-Sophie, c'est comment est né ce programme de hackathon et justement, mais pourquoi vous avez fait des hackathons ?
Alors pourquoi ? Je pense qu'il faut se replonger dans notre contexte qui est celui de ces, on va dire, deux dernières années, puisque donc nous, notre métier, c'est de gérer, de produire du logement. Et aujourd'hui, effectivement, notre métier, il est interpellé d'une part par les impacts de la crise sanitaire et d'autre part par la loi climat, la réglementation environnementale 2020. Alors pourquoi crise sanitaire ? Parce que crise sanitaire, avec les confinements, ça a amené chacun en fait à regarder son logement d'une manière différente et à se réinterroger sur finalement comment il voulait vivre dans son logement, ce qui lui manquait dans son logement. Mais aussi, on a vu que les usages du logement avaient évolué puisque maintenant, beaucoup de nos concitoyens travaillent aussi avec le télétravail dans leur logement. Et on voit qu'on a des attentes nouvelles sur les modes d'habiter son logement, donc quel logement pour demain. Et puis, la loi climat ou la réglementation environnementale 2020 qui nous emmène sur la stratégie nationale bas carbone nous oblige, nous, je dirais, producteurs de logements, à nous interroger sur les modes de production demain, comment on va utiliser davantage de matériaux biosourcés, comment on va produire des quartiers de ville sobres, durables et par ailleurs aussi bien équilibrés. Donc voilà, moi je considère qu'on est un peu à un tournant dans nos métiers. Si je prends la loi climat, on voit bien qu'on va avoir ce paradoxe de dire comment on va continuer à produire et même à produire davantage de logements pour répondre à la crise du logement, tout en artificialisant moins les sols. Sacré challenge.
C'est clair, c'est voilà. Clair.
Donc on s'est dit, pour réfléchir à ces questions qui est comment effectivement on va concevoir le logement de demain, comment on va produire ces logements de demain, on s'est dit, quoi de mieux que de réfléchir avec nos parties prenantes, avec les acteurs, d'une part sur les usages, avec je dirais nos locataires ou nos futurs locataires, avec nos partenaires collectivités, parce que c'est bien la collectivité qui porte aussi ces projets urbains, et puis ceux qui font la ville, c'est-à-dire les maîtres d'œuvre, les entreprises. Et puis on a souhaité aussi associer des étudiants, en fait, pour venir aussi nous challenger avec un regard différent sur ces questions. Donc c'est vraiment, comment, sur une problématique donnée, en associant des parties prenantes de manière très différente et sur un temps court, on trouve des solutions. Et on a souhaité, en fait, confier cette réflexion à nos directions interrégionales. C'est-à-dire, moi, je leur ai dit, voilà, il y a deux grands thèmes. C'est quoi les modes d'habiter demain ? C'est quoi les modes de production de logement demain ? Et là-dedans, choisissez des problématiques très précises qui collent à vos territoires en associant effectivement vos partenaires sur les territoires pour monter ces fameux hackathons des territoires.
La suite de ces hackathons, c'est de produire des idées qui verront le jour, qui vont être concrétisées sous forme de projet ?
Alors, effectivement, l'idée, puisque ces hackathons réunit chaque fois une quarantaine de personnes, donc il y avait plusieurs équipes. En fait, il y avait des équipes, il y a eu 4-5 équipes.
Alors, ça s'est organisé, vous avez précisé, région par région.
Voilà, hein, donc peut-être pour préciser les choses, effectivement, il y a eu 6 hackathons. Mm-hmm. Hein. Peut-être au niveau des thématiques, c'est intéressant, parce que j'ai dit, on a laissé la main, on a souhaité justement que ça soit des initiatives locales. En fait, on a eu 3 thématiques qui portent plutôt sur vraiment le logement de demain et comment produire ce logement. Donc, on va être sur l'habitat frugal, abordable, comment on prend compte aussi le changement climatique ou comment aussi on sait produire du logement évolutif, je pense qu'on y reviendra.
Tout à fait.
Et puis on a eu 3 hackathons qui là sont plutôt, on va dire, sur tourner autour de l'habitant, donc sur l'habitat multigénérationnel, sur comment on peut offrir des solutions pour les jeunes, pour prendre quelques exemples. Donc chaque hackathon, une quarantaine de personnes dans un hackathon, plusieurs équipes, c'est-à-dire à la fin de la journée, plusieurs projets. Et il y avait un jury à la fin de la journée qui a donc choisi le projet lauréat ou un projet coup de cœur. Et on s'était engagé, en fait, à expérimenter ce projet sur le territoire en question.
Ce que je vous propose, Anne-Sophie, c'est très clair pour le contexte de cette formidable initiative, c'est de commencer déjà par un premier tour. Je vous propose que nous fassions cette heure que nous allons passer ensemble, l'examen justement de ces séquences sur chaque thématique, tout de suite après ça.
Hackathon des territoires pour l'habitat de demain, une émission proposée par CDC Habitat.
Et voilà les amis, c'est parti pour le première partie, cette partie pour l'hackathon. Je propose qu'on mette un cap, voilà, on va prendre avec vous Anne-Sophie le cap sur le sud-ouest, non pas pour goûter des gésiers confits, mais plutôt pour écouter les directions régionales, sur le premier terme qui a tourné autour de la question que vous avez posée, qui a été posée à ces directions régionales, quel habitat multigénérationnel durable à concevoir, pour permettre à chacun et de ses habitants de s'épanouir. C'est un sujet extrêmement important. C'est un sujet à la fois anthropologique, mais c'est aussi un sujet d'anthropologie urbaine, mais aussi de comment, et Dieu sait que dans le contexte actuel, c'est pas simple, c'est comment bien vivre ensemble, en fait. Et c'est ça l'idée que vous avez posée. Alors, ce que je vous propose, Anne-Sophie, c'est que nous écoutions Patrick Martinez, qui est le directeur régional Nouvelle-Aquitaine de la Banque des Territoires, sur ce qu'il a retenu de l'événement. Une interview qui a été menée par notre rédactrice en chef, Fabienne Lissac. Je vous propose qu'on l'écoute et on réagit après.
Patrick Martinez, vous êtes directeur régional Nouvelle-Aquitaine de la Banque des Territoires et vous avez participé, assisté à ce hackathon du Sud-Ouest. Quel habitat multigénérationnel durable concevoir pour permettre aux résidents de s'épanouir? Qu'avez-vous retenu des innovations qui ont émergé lors de cet événement?
Bien, j'ai retenu qu'il y avait deux grands formats d'innovations qui nous étaient présentés à travers cinq équipes. D'un côté, comment on fait en sorte d'améliorer la vie des résidents de CDC Habitat à travers la mise en place de moyens supplémentaires, qu'ils soient numériques, humains, et d'un autre côté, comment on occupe différemment l'immobilier, donc le logement social, en pensant par exemple à réaménager des halls, à refaire dans les étages des pièces en plus qui peuvent être utilisées de façon collective. Donc c'était extrêmement intéressant sur la partie essayons de reconstruire un modèle différent à partir de ce que nous vivons aujourd'hui.
Pouvez-vous nous parler du lauréat ?
Le lauréat, c'était l'équipe Puzzle. Il y avait cinq équipes en ligne hein, avec des noms de code. Et Puzzle a imaginé un système qui s'appelle la pièce en plus. C'est-à-dire que vous prenez un étage d'un logement social et vous le bâtissez différemment parce que dans la partie centrale, vous imaginez une pièce qui va être finalement modulaire et utilisable par l'ensemble des habitants de l'étage comme étant finalement la pièce en plus où ils peuvent parfois accueillir des amis ou parfois en faire un élément de communauté de vie temporaire avec évidemment donc des cloisons qui bougent et des choses modulables. Donc dans un univers qui sort à peine du Covid, enfin on l'espère, se retrouver sur un étage entre habitants à travers un élément d'agilité, c'était très intéressant.
Voilà ce qu'il faut retenir. J'ai entendu plusieurs choses. Amélioration de la vie des résidents qui était un peu le fondement, à l'appui de moyens humains et numériques, d'occuper différemment le logement, travailler les communs, d'avoir des pièces collectives, de recréer finalement du lien sur l'immeuble, de réfléchir à un modèle différent, à l'instar de ce qui s'est passé, une crise pandémique mondiale qui a mis à genoux la planète et qui donc nous pousse à la réflexion. Et la récompense de cette équipe, j'aime beaucoup le nom, la Puzzle, pour cette idée de la modularité du logement. Anne-Sophie, réaction.
Alors, peut-être dans un premier temps, pour préciser un peu les partenaires qui ont participé à ce hackathon du Sud-Ouest, et pour illustrer mon propos de tout à l'heure, puisqu'on avait le CROUS qui était avec nous, donc on avait bien la problématique étudiant. Nous avions une start-up qui s'appelle Domani, qui propose des solutions alternatives, j'irais à la maison de retraite pour les personnes âgées. On est plutôt sur du co-living pour personnes âgées. On avait aussi une coopérative d'habitants et puis bien sûr les collectivités architectes, mais aussi des sociologues. Et je précise que nous avons eu la chance d'avoir le jury présidé par le maire de Bordeaux, Pierre Urmic. Alors pour revenir effectivement à votre question, enfin, ce que je trouve très intéressant dans cette réflexion, et ça montre bien tout l'intérêt de ces hackathons, c'est que quand on parle effectivement d'habitat multigénérationnel, c'est-à-dire voilà, comment on recrée du lien entre générations, ben voilà, là a émergé des solutions, nouvelles en fait d'espaces partagés. Alors, probablement un peu compliqué à mettre en œuvre dans de l'habitat existant. Mais néanmoins, vous savez que nous, on mène des programmes importants de réhabilitation sur notre parc. Donc, c'est de se dire effectivement comment demain, dans le cadre de réhabilitation, on peut réfléchir à cette question d'une pièce partagée supplémentaire, voilà, sur un étage ou, au niveau d'une résidence. Aujourd'hui, puisqu'ils ont fait référence aussi dans leur réflexion au jardin partagé, on fait beaucoup, nous, sur nos résidences de jardins partagés qui permettent effectivement de vraiment créer du lien social entre les générations. Et puis, cette pièce supplémentaire,
un peu de la pièce collective.
Oui,
c'est-à-dire que. Ou la salle communautaire, enfin, on pourrait l'appeler de plusieurs.
Oui, voilà. Ouais. Et en fait, si vous voulez, elle sera vraiment, ça sera vraiment aux habitants, en fait, d'en trouver
d'en définir les contours.
D'en trouver le bon usage.
Ouais,
ça
sûr,
peut être aussi bien pour accueillir, on a un membre éloigné de sa famille qui est en visite, ben voilà, ça peut servir une pièce en plus pour pouvoir l'héberger. Ça peut être pour des partages collectifs. Donc on voit bien que c'est aux habitants eux-mêmes.
C'est les habitants,
en fait,
hein, qui définissent.
De s'en saisir. Et c'est vraiment, voilà, enfin, une mise à disposition pour les habitants. Donc, ce qui veut dire aussi que l'objectif là sur notre direction interrégionale Sud-Ouest, c'est que dans un prochain programme neuf, ils puissent effectivement travailler et gérer à ce modèle nouveau. Et puis j'ajouterais, parce qu'il y avait ils ont eu aussi un coup de cœur, le jury a eu un coup de cœur sur ce qu'ils ont appelé le hall inclusive. Vous savez, nous, dans nos résidences, on a parfois des très grands halls qui d'ailleurs parfois posent des problèmes parce qu'il y a un peu des occupations illicites
de
ces halls.
Je vois tout à fait ce que vous voulez
dire. C'est pas forcément, ça n'amène pas forcément de tranquillité résidentielle.
C'est clair.
Et de ce fait, là aussi, c'était de se dire, aux habitants aussi de se réapproprier les halls, d'en faire un espace partagé et d'en faire un espace de lien social.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'en fait, c'est tout à fait compatible, en fait, avec ce qui est en train de se produire, parce que on a posé la question justement à vos collaborateurs, mais aussi tous les externes qui ont participé dans le Sud-Ouest à cette action. Ils en parlent encore. Ils en parlent encore comme quoi ça a laissé des traces durables, tant en interne qu'à l'externe.
Oui, alors on est très heureux puisque effectivement, cette démarche de hackathon des territoires, pour nous, groupe CDC Habitat, c'était aussi comment acculturer nos collaborateurs à des démarches d'innovation. Puisque c'est bien ça, c'est d'aller trouver des solutions innovantes pour résoudre effectivement des problématiques. Et le fait effectivement d'avoir ouvert ces démarches, à l'extérieur, a donné envie en fait à ses partenaires de poursuivre la réflexion avec nous. Et on a déjà, notamment dans cette direction Sud-Ouest, ils ont envie de recommencer cette expérience en choisissant un autre thème, parce qu'on voit en fait la puissance, si vous voulez, de la démarche, c'est-à-dire qu'en une journée, il faut de la méthode, hein. Évidemment, il y a un accompagnement de méthode pour comment ça marche. C'est-à-dire, d'abord, on pose la problématique, elle est présentée pour donner les éléments d'éclairage sur une problématique. Ensuite, il y a une phase de ce qu'on appelle d'idéation. C'est-à-dire que, chacun, allons-y, c'est le brainstorming, la créativité. Ouais. Et puis après, on resserre et le petit groupe qui travaille se dit, on a émis autant d'idées, maintenant, laquelle on prend, parce que laquelle va être le plus susceptible d'aboutir, il faut qu'il y ait une faisabilité avérée derrière. Et après, effectivement, alors là, c'est très court sur une journée, mais normalement, c'est comment on la met en œuvre, quel plan d'action, les moyens associés, etc. Alors, en principe, on va dire, les hackathons, dans l'idéal, devraient se dérouler sur 2 jours, parce qu'effectivement, la deuxième journée permet d'aller beaucoup plus loin sur la faisabilité, la mise en œuvre du projet.
C'est clair.
Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'ils ont envie de poursuivre, parce que je pense qu'ils ont été un petit peu frustrés.
Ouais. C'est ce qu'on a entendu dire. Voilà.
Qu'il n'y ait pas une deuxième journée, en réalité.
Donc, il y a peut-être des idées. Alors, moi, ce que je vous propose, Anne-Sophie, c'est qu'on continue notre tour de France. Et on va partir du sud-ouest, on va revenir dans le bassin francilien. On se retrouve tout de suite après ça.
Hackathon des territoires pour l'habitat de demain, une émission proposée par CDC Habitat.
Voilà, bienvenue dans le bassin francilien, les amis. Merci en tout cas d'être avec nous. Je vous rappelle que le podcast est disponible et vous pouvez le télécharger et même le liker ou voir commenter. Alors, le bassin francilien, Anne-Sophie, n'est pas en reste, puisque en présence d'ailleurs de Yassamine Beniel et Amel Boubrit, chargés d'opérations immobilières au Crous de Versailles, ou encore, tout simplement, des étudiants, vous en avez parlé tout à l'heure, très intéressant, l'école d'urbanisme de Paris, ainsi que Clotilde Saint-Hilaire, la direction qui est directrice de la mission innovation du groupe CDC Habitat des entrepreneurs. Toutes ces personnes se sont penchées sur la question. La question est la suivante. Comment l'offre de logement social peut répondre aux besoins et aux nouveaux usages de jeunes? C'est incroyable la modernité, c'est-à-dire, de cette question quand on voit le contexte actuel qui est quand même pas tout à fait simple. Et ce que je propose pour démarrer cette seconde analyse, c'est qu'on écoute le témoignage de Clément Blanchet, architecte, urbaniste et membre du jury, qui revient sur le projet et qui a gagné cette compétition. Je vous propose qu'on l'écoute.
Clément Blanchet, bonjour, vous êtes architecte, urbaniste et vous étiez membre du jury de ce hackathon des territoires pour l'habitat de demain organisé en Île-de-France. Qui est l'heureux élu?
Alors l'heureux élu s'appelle La Ruche. La Ruche, c'est un concept, je pense, intéressant, puisqu'en fait, il mélange le pragmatisme, le visionnaire et aussi une solution réparatrice sur la question du logement. Il est intéressant de se dire que finalement, on peut réparer l'architecture par le mobilier. C'est finalement le mobilier qui répare l'immobilier. Et toute l'idée est de pouvoir proposer une solution adaptable, modulaire, qui peut se répliquer ou se mélanger dans des configurations de bâtis existants et la possibilité d'engager une sorte de préfabrication avec des industriels sur une constitution d'un stock et du coup propose simplement la conception de grands logements, parfois trop grands, parfois trop petits, et de se questionner sur le rôle du mobilier, de sa conception, de son adaptabilité et de réfléchir à des lieux nouveaux autour de cette réversibilité que le mobilier peut proposer.
Ce qui est novateur, c'est qu'il y a même une ambition de réparer l'immobilier. C'est vraiment original.
C'est moi qui parle ainsi, mais je pense qu'en effet, c'est de se dire qu'on a aujourd'hui dans le monde beaucoup, beaucoup de logements qui sont plus ou moins bien conçus par des architectes. Et ben finalement, ça peut être soit l'architecte, soit le designer, soit l'habitant qui peut se mettre dans une logique de dire dans cet espace, je peux reconfigurer dans une logique où je peux travailler, habiter, vivre. Et on peut proposer un modèle qui va en lien à son besoin et à son parcours résidentiel.
Donc il y a beaucoup d'innovations, ça a foisonné lors de ce hackathon.
Je pense que ce hackathon a permis de libérer, ça a été une sorte de thérapie de groupe collective entre des élus, des architectes, des concepteurs, des constructeurs. Et ça permet finalement de réveiller des idées simples, mais innovantes. Parfois, innover, c'est de ne pas innover. Et dans ce cas présent, c'est simplement de se dire qu'est-ce que le mobilier peut faire pour réparer l'espace, réparer des conceptions parfois compliquées.
Si on résume votre vision de l'habitat de demain, que diriez-vous ?
L'habitat de demain, c'est tout simplement un habitat qui soit adaptable, justifiant différents besoins selon différentes vies, et proposer ainsi le bonheur et le plaisir d'habiter chez soi, avec la possibilité de travailler, mais aussi d'accueillir. Et la question du Covid et toutes les crises que nous avons rencontrées jusqu'à présent témoignent de la nécessité d'abord d'aimer son logement, de pouvoir apprécier différentes configurations et de justifier du coup d'une caractéristique totalement évolutive dans le cadre de son logement.
Extrêmement intéressant ce que nous dit Clément Blanchet, et je reviens, la punchline, elle mérite quand même d'être posée. Quand le mobilier répare l'immobilier?
Oui, je trouve ça absolument extraordinaire et comme expression et en plus dit par un architecte, donc ouais. c'est extrêmement intéressant, mais ce qui montre aussi toute l'humilité hein, que nous devons avoir tant effectivement les maîtres d'œuvre que nous-mêmes hein, en
mais
tant
oui,
que
mais bien sûr,
qu'opérateurs, qu'constructeurs. Voilà, il y a certaines vérités à certaines époques qui le sont moins à d'autres, et il faut savoir aussi le reconnaître. Alors, je trouve que là, ce qui est très intéressant effectivement dans ce hackathon sur et ce projet lauréat La Ruche, c'est que ça illustre bien ce qu'on a voulu faire, puisque donc nous on est présents hein, sur le logement des jeunes, on construit des résidences étudiantes, des résidences jeunes actifs, des résidences sociales, on fait aussi du co-living avec des start-up, et d'ailleurs il y avait des start-up aussi qui avaient été associées à ce hackathon, mais je pense qu'on n'aurait jamais imaginé une solution comme celle-là, tout seul. Et je pense que même si un collaborateur du groupe nous avait dit, bah, vous voyez, finalement, ça serait vraiment une très bonne idée que de travailler sur le mobilier, je pense qu'il aurait trouvé beaucoup de réactions au sein du groupe qui auraient été de dire, non, mais c'est pas notre métier. Et donc, cette idée se serait réenterrée, je pense, aussi vite. Là, effectivement, comme on a pris l'engagement
mais oui.
d'expérimenter...
Et là, vous avez en plus un architecte urbaniste qui a une sensibilité particulière.
Exactement. Et donc, c'était bien ça qu'on recherchait, si vous voulez. C'était de réfléchir hors du cadre, de trouver des idées, effectivement, que nous n'aurions pas tout seuls, et de se dire, effectivement, de plus en plus... Vous savez, on se dit, bon, le logement, c'est un produit. Mais dans nos métiers, de plus en plus, on se dit, est-ce que demain, on offre un produit logement ? Ou est-ce qu'on offre des services autour d'un logement ? C'est une petite révolution hein, pour nos métiers.
Absolument.
Je trouve que ce qui est proposé là avec La Ruche, de dire bah voilà, dans des petits espaces, le fait de concevoir le mobilier pour ces petits espaces peut permettre effectivement de rendre finalement le logement beaucoup plus habitable avec la même surface. On voit bien que voilà, on est en train de translater en fait le sujet vers les services.
Pour vous, l'approche servicielle, elle est finalement, j'allais dire entre guillemets, client-centrique ou plutôt centrée sur l'humain. Et donc, à partir du moment où vous réfléchissez sur la maîtrise de l'usage, j'allais dire que dans l'extrapolation, on est passé de l'AMO, à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, à l'assistance à la maîtrise d'usage, fait que maintenant, ça a du sens de ce point de vue-là. Et pour vous, c'est une révolution, c'est un changement de paradigme.
C'est exactement ça, c'est-à-dire effectivement, quand tout à l'heure je parlais d'innovation, bon, on a nos innovations techniques sur les matériaux, sur les modes constructifs, mais aujourd'hui, dans notre métier, effectivement, de plus en plus, d'ailleurs, dans notre projet d'entreprise, en réalité, vous avez voilà, une grande dimension d'orientation client, en fait, de notre projet d'entreprise. Et orientation client, ça veut dire, effectivement, comment on va bien davantage sur les usages. C'était aussi un de ses objectifs hein, des hackathons, de dire, en associant des locataires, on va forcément aussi aller davantage sur les usages. Donc, les usages du logement, et de ce fait... Usage, ça veut dire effectivement, service associé. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vraiment pour nous une évolution. Alors, vous dites une révolution. Bon, moi, je dis une évolution, mais c'est quand même peut-être une petite révolution quand même pour tout à chacun.
C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est un changement de paradigme dans le sens où, pendant très longtemps, depuis les années 2000, on a juré que par la tech, que par l'innovation, le tout digital, et on s'est rendu compte que finalement que la technologie pour la technologie n'avait pas de sens. Et finalement, c'est intéressant parce que ce sont les usagers eux-mêmes qui replacent la techno, entre guillemets, au service de ce qu'on appelle user-centric ou client-centric, et je trouve que c'est plutôt une bonne chose en soi.
Alors, pour rebondir sur ce que vous dites, par exemple, si on prend aujourd'hui dans nos métiers, vous savez, et par rapport à la tech, comme vous dites, on a le grand sujet des bâtiments connectés.
Et oui.
Voilà. Alors, qui sont importants pour nous, parce qu'en termes d'exploitation des bâtiments, voilà, c'est vraiment un plus hein, demain pour faire de la maintenance prédictive. Oui. Mais on le regarde aussi en disant quel est le plus pour le locataire.
Voilà. Absolument.
Pour la maîtrise de ses charges.
C'est le cœur du sujet.
Autant nous, on dit on va piloter les équipements, on peut piloter les équipements avec des bâtiments connectés, et le locataire, lui, va pouvoir piloter d'une certaine façon son logement. Donc là aussi, si vous voyez, si on réfléchit bâtiment connecté sans réfléchir usage pour le locataire,
absolument.
Là, on passera à côté du sujet.
Je pense que vous êtes dans le cœur du sujet, et c'est tout à fait, bien évidemment, l'élément central du, justement, bien vivre ensemble. Comment la technologie va pouvoir servir entre guillemets, ce gain de temps que l'on a pour mieux vivre ensemble. Parce que cette techno ne sert qu'à une chose, c'est à libérer du temps pour l'humain et se retrouver ensemble. Je vous propose qu'on continue notre road trip, Anne-Sophie. C'est un plaisir de voyager avec vous. Voilà, on va aller maintenant dans le Grand Ouest et je vous propose qu'on se retrouve tout de suite après ça.
Hackathon des territoires pour l'habitat de demain, une émission proposée par CDC Habitat.
Quand on pense au Grand Ouest, Anne-Sophie, on voit cette façade atlantique, on se dit qu'on est au bord de la mer. C'est génial, mais pas que. Il y a aussi beaucoup d'émulation puisque vos équipes territoriales ont d'abord cherché à concilier habitat et sécurité. Intéressant d'ailleurs, parce que dans le mot sécurité, il n'y a pas forcément les poncifs ou les clichés auxquels on pense à travers un hackathon intitulé. C'est, alors, je trouve ça vachement. On voit quand même, c'est très jeune, hein, c'est vachement bien. Imaginons la safe résidence. Quelles innovations pour garantir la tranquillité résidentielle et rassurer les habitants face aux enjeux sécuritaires? Alors, on disait tout à l'heure qu'on était au cœur du sujet. Je peux vous dire que là, on est vraiment, vraiment au cœur du sujet. Je vous propose qu'on écoute quelqu'un qui était membre du jury du hackathon. Elle s'appelle Laetitia Coudriot. Elle est responsable d'animation sociale, innovation et communication à la direction interrégionale Grand Ouest de CDC Habitat. Je vous propose qu'on l'écoute et on réagit tout de suite après ça.
Laetitia Coudriot, vous êtes responsable d'animation sociale, innovation, communication à la direction interrégionale Grand Ouest de CDC Habitat et membre du jury du hackathon. Parce que oui, vous avez organisé ce hackathon Grand Ouest sur le thème « Imaginons la safe résidence, quelles innovations pour garantir la tranquillité résidentielle et rassurer les habitants face aux enjeux sécuritaires » Est-ce à dire, Laetitia Coudriot, qu'entre le bailleur social et la sécurité, ils font pas bon ménage ?
Non, et on peut pas dire ça comme ça. C'est vrai qu'on a choisi cette thématique hein, qui nous tient à cœur, puisque c'est un enjeu actuel. Il faut pas se le cacher. Pour autant, ce qu'on peut relater, c'est que nous, on connaît les retours de nos locataires, et c'est vrai que quand on leur adresse des enquêtes, ils nous font part de l'importance de la tranquillité résidentielle pour bien vivre dans leur logement. Donc, de ce constat-là, c'est vrai qu'on se dit que c'est notre devoir en tant que bailleur de garantir ces conditions de vie paisible. C'est vrai qu'on a un retour assez conséquent puisque 70% de nos locataires disent que c'est important, la tranquillité résidentielle. Pour autant, je tiens à souligner que 70% de nos résidents ne sont pas concernés par des problèmes d'insécurité, loin de là, puisque voilà, on a une infime partie de nos résidents qui connaissent effectivement les problèmes de squat, de deal, etc. Mais c'est vrai que le sentiment d'insécurité, il est très subjectif et d'une personne à une autre, selon l'âge aussi. Ce sentiment, il peut être très graduel. Et c'est pour ça que nous, en tant que bailleurs, on doit s'adapter à toutes les situations, hein, même quand le sentiment d'insécurité n'est pas forcément justifié par des actes réels. En tout cas, c'est un enjeu pour nous de garantir ces conditions de vie paisibles.
Alors, il paraît que les idées ont foisonné. Quels sont les projets qui lui ont emporté, point de vue innovation ?
Alors, on a eu 6 équipes, hein, il y avait 60 personnes au total, réparties en 6 équipes, et chacune d'entre elles a proposé une idée qu'elle a développée tout au long de la journée, et 2 ont attiré plus particulièrement notre attention. Donc, le premier, c'est une innovation métier qui s'appelle concierge 2.0. Donc, concierge, hein, tout le monde connaît ce métier, hein, qui est assez ancien, et là, on le rebaptise en mettant le rajout 2.0, puisque que derrière tout ça, en fait, l'idée, c'est de proposer un nouveau métier qui soit un peu une évolution du métier de concierge, une évolution du métier de gardien. Et l'idée, c'est d'avoir un activateur, un catalyseur de lien social, c'est-à-dire que cette personne serait vraiment en contact direct avec les locataires pour leur proposer des services répondant à leurs besoins. Et ça, on sent que c'est un vrai enjeu, un métier de proximité, la dimension humaine, la présence humaine pour, en tout cas, répondre à des problèmes d'insécurité, enfin, en tout cas, rassurer les habitants sur le fait qu'ils puissent reposer sur les services d'un concierge 2.0 et qui pourrait être le relais aussi vis-à-vis des services qui sont présents ailleurs dans la collectivité et qui peuvent répondre aussi aux besoins des personnes. Alors, c'est le cas notamment des personnes âgées. C'est vrai que auprès de ces personnes, le sentiment peut être d'insécurité peut être plus important et le recours à des services supplémentaires est d'autant plus nécessaire.
On le voit bien d'ailleurs que la notion de sécurité, je reprends les propos de Laetitia Coudriot, c'est un sentiment subjectif qui augmente ou qui varie selon les générations. La deuxième chose qu'elle a pointée, c'est effectivement de récompenser l'une des deux équipes retenues sur les six sur le concierge 2.0. Alors c'est intéressant le nouveau concierge 2.0 puisque... Alors bien sûr, il y a beaucoup d'applications, vous avez vu, de conciergerie en ligne, vous n'avez plus rien à faire, on inscrit les gamins à l'école à votre place quand on déménage. Enfin, ça, on voit qu'il y a une révolution, entre guillemets, de cette image du concierge qui avait le bon vieux cliché traditionnel. Je trouve ça remarquable. La deuxième chose qu'a dit Laetitia, je vais vous demander de réagir là-dessus, Anne-Sophie, c'est ce côté catalyseur de lien social. Est-ce que je peux dire même médiation sociale, dans une certaine mesure? C'est-à-dire que celui qui est au cœur, finalement, l'intermédiation, qui est au cœur de cette agora qui est la copropriété ou qui est l'immeuble, dans son ensemble, qui est un espace partagé, je parle des communs, où se confrontent, où s'échangent des idées, parfois, des générations, et que finalement, le lien, le fil conducteur, mené par le concierge 2.0, pourquoi? Parce qu'il n'est plus seulement celui qui, finalement, vérifie les boîtes aux lettres, regarde si les poubelles sont propres, enfin voilà, ce genre de cliché bien, bien ancré. Mais quelqu'un qui a adopté aussi à la fois une certaine forme de techno, qui lui permet d'avoir, le troisième point, les relais avec les différents services. Je trouve ça extrêmement innovant. Réaction Anne-Sophie.
Alors, là aussi, peut-être donner un tout petit éclairage sur les participants à ce hackathon, puisque comme on était sur la thématique de la tranquillité résidentielle, nous avions des entreprises aussi de sûreté, de vidéosurveillance, des médiateurs de quartier, des associations d'habitants, et puis alors bien sûr architectes, sociologues, et puis nous avons aussi eu le plaisir d'avoir au jury le premier adjoint
des élus,
de
bien
Nantes,
sûr, bien sûr,
voilà,
oui.
En charge de la politique de la ville. Et alors, là aussi, moi, je dirais, ça illustre bien ce qu'on cherchait dans les hackathons, parce que sur la question, effectivement, de la sécurité et de la tranquillité résidentielle, et comme ça a été très bien dit dans la petite capsule audio, c'est pas vrai partout, heureusement, mais c'est vrai qu'il y a des sites sur lesquels on a vraiment, effectivement, des sujets de sécurité importants. Donc, on essaye d'y répondre avec de la vidéoprotection, avec de la présence humaine, avec, je dirais, des partenariats aussi, avec toutes les institutions, je dirais, autour de nous. Et donc, il y a un vrai travail collaboratif, notamment avec les collectivités. Et donc là, en fait, à nouveau, on va sur des solutions que j'appellerais soft, d'une certaine façon, c'est-à-dire qui sont des solutions qui vont plutôt retricoter, je dirais, le lien social. Effectivement, moi, j'ai bien aimé aussi cette expression de catalyseur de lien social. Alors, il faut savoir que nous, dans notre métier de bailleur social, on a des gardiens d'immeubles,
oui.
Et on a de nombreux gardiens d'immeubles, et dans leur métier, ils ont déjà, effectivement, cette dimension, et c'est ce qu'ils font quand même au quotidien, ce sont vraiment des acteurs de lien social. Mais sur certains sites, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile, parce que quand vous avez effectivement des situations, je dirais, d'agressivité, quasiment des lieux qui sont devenus de non-droit parce qu'il y a des trafics, effectivement, c'est un métier qui devient très compliqué pour...
Ça reste quand même marginal, hein, que le phénomène, il faut le rappeler.
Alors, voilà, ça oui. Reste marginal, mais néanmoins, c'est des sujets auxquels on
mais
peut être confronté.
C'est des sujets qui cristallisent...
Exactement. Souvent, c'est comment prévenir ces situations, de ne pas arriver qu'un quartier effectivement dérive d'une certaine façon, et voilà, et donc l'intérêt de ce catalyseur de lien social, c'est plutôt de faire de la prévention, finalement, de se placer en amont, je dirais, des difficultés et éviter qu'un quartier puisse dériver. Donc on retrouve un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire comment on accompagne les locataires, on va sur davantage de services, sur davantage de mise en relation pour assurer cette tranquillité résidentielle. Alors je voudrais ajouter effectivement que par rapport au... Là aussi peut-être un élément de contexte. C'est vrai que ce qu'on a observé quand même sur nos résidences, et même les résidences les plus tranquilles d'entre elles, c'est que la crise sanitaire et les impacts de la crise sanitaire ne sont pas neutres, on va dire, aujourd'hui sur la tranquillité résidentielle. C'est-à-dire la succession des confinements ont quand même créé des situations qu'on vit sur nos résidences, d'agressivité plus forte, ou de décompression, un besoin de décompression. Mais bon, quand la décompression se fait vers d'autres personnes ou vers nos équipes de proximité, c'est aussi des situations qui sont
compliquées. Est-ce que vous y voyez, Anne-Sophie, un phénomène de société ?
Alors,
vous avez une longue expérience.
Oui, bien sûr.
Vous avez une longue expérience c'est aussi mon cas, je vois une évolution en fait dans le vivre ensemble qui pose question, enfin, qui questionne la collectivité.
Oui. Alors,
de
oui,
quoi
bien...
cela est-il le reflet, selon vous ?
Bien sûr, enfin, on voit, enfin, gérer les sujets de crispation, de montée de tension, hein. On les voit quand même s'aggraver. Enfin, je pense que en tout cas, nous, c'est les constats.
C'est quoi ? C'est du communautarisme.
Que nous faisons. Alors. Moi, j'ai plutôt essayé d'aller vers les solutions, peut-être.
Bien sûr, oui.
Parce que tout à l'heure, vous avez employé un terme qui me va bien, qui sont les communs. Pour vous dire, nous, on a fait, au niveau de notre COMEX, en début d'année, un voyage apprenant. C'est aussi une démarche d'innovation, en fait. C'est d'aller s'inspirer de ce qui peut se faire ailleurs,
c'est
pour
génial,
voir comment
ouais,
on se nourrit. Et notamment, on avait eu toute une approche sur les communs. Voilà. Et je pense qu'on a besoin, on parle
qui
beaucoup
de... Qui prennent une importance incroyable, d'ailleurs.
Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ce vivre ensemble, les tensions qu'on exacerbait, peut-être voilà, plus d'individualisme, moins de respect de l'autre aussi, quand même, dans la vie de tous les jours.
Oui, oui.
Voilà, se réapproprier les communs, se réapproprier les espaces communs, se réapproprier la vie en collectivité. Mais une fois qu'on a dit ça, effectivement, ça se fait pas spontanément. Donc il faut qu'il y ait un projet, il faut qu'il y ait de la concertation, il faut associer.
Et une implication des résidents, bien sûr.
Exactement. Oui. Alors les outils, tout à l'heure on parlait de la tech, ça peut vraiment nous aider parce qu'effectivement ça touche aussi des populations différentes. On sait bien qu'on va pas toucher de la même façon dans des concertations des jeunes ou des personnes âgées. Il faut aussi que nous soyons inventifs et innovants pour arriver, à capter nos différents publics et les emmener dans de la concertation. De la co-construction. Moi, je pense qu'un mot qui est assez fort aussi dans ce qui ressort des hackathons, finalement, c'est quand même c'est ce formidable désir de co-construire ensemble des solutions. Voilà. Et donc, il faut qu'on réembarque. Je pense aussi, nous, nos locataires et nos concitoyens dans ce vivre ensemble. Et en tant que bailleur important, c'est vrai qu'on a aussi, un rôle à jouer qui est nous on a des engagements sociaux, très 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 forts et sociétaux d'une certaine façon.
Alors vous dites réembarquer, moi j'ajouterais si vous permettez de réenchanter aussi la relation à l'autre et de lui donner suffisamment de résilience. Vous avez raison de dire effectivement il faut se centrer bien évidemment sur les solutions. Sans le déni de réalité, c'est ça qui est important, et je pense que vous en faites la preuve avec justement ces capacités. Quand vous parlez de conciergerie augmentée ou de concierge augmentée au sens de la tech 2.0, c'était ça l'idée. Quand on a posé la question, c'était de dire voilà, le concierge à l'ancienne, bon, il existe toujours puisqu'il est toujours là, il est présent dans le lien social, et on a tous comme ça en tête des marqueurs. Moi, j'ai vécu dans ces grandes résidences. Je suis né au Minguette, moi. Vous voyez, comme quoi, je connais bien le sujet. Et quand on voit cette technologie, on voit bien que pour augmenter la capacité du concierge, c'est ce qui est intéressant qui est ressorti. Si on lui donne des moyens d'interagir de façon pertinente sur la tech, mais aussi de se réinscrire comme un vecteur de lien social. Et je pense que c'était bien le but. Et ça a bien fonctionné au niveau de la direction. Les remontées ont été extrêmement positives. Il y a des équipes qui sont très embarquées chez vous et très enthousiastes. C'est rassurant pour vous qui en assurez la direction.
Ah, complètement. C'est-à-dire que dans les équipes chez nous qui ont participé au hackathon, on avait veillé aussi qu'il y ait tous les métiers. C'est-à-dire les métiers de terrain, la gestion locative, mais aussi les métiers de la maîtrise d'ouvrage. Parce que nous, on est vraiment justement en transversalité sur ces sujets pour trouver aussi les bonnes solutions. Donc c'est vrai que, quelque part, maintenant, ça nous oblige d'une certaine façon, ça nous oblige vis-à-vis de nos équipes d'expérimenter, ça nous oblige aussi vis-à-vis de nos partenaires maintenant d'expérimenter ces propositions et d'aller plus loin. Donc oui, il y a un réel enthousiasme dans les équipes pour y aller. Vous savez, moi, vous l'avez rappelé tout à l'heure, je suis arrivée en 2020 et j'avais eu la chance de pouvoir faire, avant ma prise de fonction, un peu un tour d'entreprise. Il y avait une forte attente de la part des équipes de CDC Habitat, justement sur l'innovation, enfin de dire comment on répond mieux. On sentait bien que sur l'habitat les choses bougent. On l'a évoqué tout à l'heure, comment on va faire davantage vers le service et comment on était aussi nous apporteur de solutions sur cette notion d'habitat et de service.
Alors, on a abordé effectivement tous ces sujets. Il y a un sujet qu'il faut aborder et que vous avez aussi bien particulièrement centré, c'est celui de la transition écologique et environnementale. Je vous propose qu'on l'examine tout de suite après cette virgule sonore.
Hackathon des territoires pour l'habitat de demain, une émission proposée par CDC Habitat.
Rebonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours avec nous pour cette émission centrée sur les usages, le parcours résidentiel avec CDC Habitat, un 360 degrés de votre parcours dans l'habitat, l'art d'habiter et la façon de vivre ensemble. Et nous ne pouvions pas parler Habitat Anne-Sophie sans prendre en compte les enjeux climatique. Je rappelle quand même que le bâtiment, l'immobilier, c'est le deuxième émetteur mondial de CO2, donc le sujet est quand même important. Ce secteur est au cœur de la transition écologique et environnementale, et c'est un sujet sur lequel votre groupe s'est largement engagé, tout en intégrant les produits existants. Et donc là, je vous propose qu'on prenne la direction de l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'en est d'ailleurs inspirée, puisqu'elle s'est posée la question. Comment concilier, on parle beaucoup de frugalité aujourd'hui, un logement frugal, mais surtout un logement abordable. On a posé la question à Sophie Chabot, qui est directrice de l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon et membre du jury, qui a beaucoup apprécié l'événement. Elle en parle encore beaucoup et elle souhaite d'ailleurs que ces initiatives s'inscrivent dans le temps. Je pense qu'il y a une très belle démarche et vous avez été très innovante dans cette initiative-là. Elle nous le raconte.
Bonjour Sophie Chabot, vous êtes directrice de l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon.
Oui, c'est tout à fait ça, oui, depuis le 1er novembre 2021.
Et vous êtes membre du jury du Hackathon Auvergne-Rhône-Alpes. Comment concilier logement frugal et abordable également?
Oui, tout à fait. Cette démarche a eu lieu le 22 mars à Lyon, oui. Confluence. Avec pour but de réunir des professionnels du secteur du logement, enfin tous les acteurs, on va dire très largement, hein, qui contribuent au logement, à la fabrication de logements, et pour faire émerger des idées. Donc c'est finalement une production d'idées dans un temps très ramassé, dans un lieu très ramassé. C'est ça le hackathon, en fait, le principe du hackathon.
Alors justement, vous parlez d'innovation. Quelles sont les innovations qui ont émergé lors de ce hackathon?
Alors en fait, ce qui était intéressant, c'est que finalement, il y avait un préalable où on disait qu'on avait une totale liberté pour laisser plus de place finalement aux idées neuves. Et parmi ces innovations, on peut noter par exemple un conseil scientifique des usagers des logements, par exemple la création d'un conseil scientifique qui est une sorte de partage des expertises et de considérer que les habitants ont aussi cette expertise. Et ce conseil scientifique pourrait rassembler les bailleurs sociaux, donc maîtres d'ouvrage, tous les acteurs du secteur et aussi les habitants. Et tout au long du projet de fabrication des logements, on aurait cette réunion de ce conseil scientifique à tout moment du projet de fabrication du logement, à toutes les phases. Voilà, avec une co-conception. Et aussi, on imagine que ça peut donner un partage de culture par les différents acteurs. La culture de l'habitant, la culture et les préoccupations du maître d'ouvrage sur les questions notamment de montage financier, de calendrier, de matériaux, par exemple. Et puis aussi, les concepteurs des logements, par exemple, les architectes, aussi les entreprises, etc. Voilà. Donc ça, c'était une première innovation. On avait aussi ce qui était aussi une autre innovation, c'était d'avoir par exemple d'imaginer des outils comme des guides opérationnels de références locales vertueuses, avec par exemple des identifications d'acteurs locaux, de matériaux et de producteurs de matériaux locaux biosourcés et géosourcés. On avait aussi par exemple comme innovation un autre outil qui pourrait être un baromètre de la frugalité, qui produit des indicateurs sur les différentes options tout au long du projet de fabrication du logement. Et puis aussi, on pourrait aussi avoir comme innovation le fait d'imaginer un système où les bonnes pratiques sont dupliquées ou répliquées en fonction, par exemple, des matériaux qui ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre. C'est une sorte de Wikipédia des bonnes pratiques en matière de logements frugaux et abordables. Voilà.
de belles innovations donc lors de ce hackathon. Est-ce qu'il y a des propositions qui ont été faites ?
Des propositions, vous voulez dire plus opérationnelles qui vont être utilisées ?
Oui.
Oui,
tout à fait.
Par exemple, la question effectivement d'une plateforme où on indique les opérations exemplaires, mais aussi la question des expertises partagées avec le conseil scientifique des usagers, c'est des propositions avec un suivi tout au long du projet.
Merci beaucoup, Sophie Chabot.
Eh bien, vous êtes toujours avec nous pour cette partie effectivement extrêmement intéressante. De parler de frugalité et de logement abordable. Avant de commenter ce que nous a dit Sophie Chabot, Anne-Sophie, est-ce concrètement, c'est quoi la lecture du, c'est quoi le logement frugal et qu'est-ce que ça implique, on va dire, sur les modes de production ?
Alors, avant juste un petit complément sur un peu la diversité des partenaires, puisque donc là nous avions un fournisseur qui était sur le ciment bas carbone, un constructeur spécialisé voilà en construction en pisé, un aménageur.
Comme quoi on peut faire du béton bas carbone, on peut le rappeler parce qu'on dit toujours que le béton, il y a du béton bas carbone.
Voilà, il y a du béton bas carbone, un aménageur, et puis là nous avions le maire adjoint à la ville de Lyon en charge de l'urbanisme, de l'habitat, du logement. Et de l'aménagement. Donc on voit bien que sur chaque hackathon, on est allé chercher effectivement des parties prenantes différentes en fonction de la thématique. Alors, logement frugal, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est, finalement, on est bien, si vous voulez, dans la logique de la RE 2020 et de la stratégie nationale bas carbone, c'est-à-dire, il est à la fois frugal dans sa construction. C'est-à-dire, vous savez, dans la stratégie nationale bas carbone, on a ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie du bâtiment. C'est-à-dire, effectivement, c'est finalement la consommation de carbone, pas seulement à la construction, mais tout au long du cycle de vie, donc quasiment jusqu'à sa démolition. Donc le bâtiment frugal, c'est bien ça, c'est on ne calcule pas juste au moment de la construction, mais tout au long du cycle de vie. Et puis, il doit être frugal aussi dans la façon dont il va être habité, donc dans ses consommations, dans les consommations qu'il va générer. Je pourrais prendre un exemple sur le village des athlètes. Vous savez que sur les Jeux Olympiques, nous sommes partie prenante du village, de la construction du village des athlètes. On va expérimenter, par exemple, un bâtiment zéro déchet. Bon, donc un bâtiment zéro déchet, c'est-à-dire qu'il va produire zéro déchet. Bon, donc là, on est dans un bâtiment dit frugal. Donc il y a plusieurs façons d'y répondre. C'est quand même encore, on est au démarrage hein, de ces sujets-là, et d'où l'intérêt effectivement de ce hackathon.
Il en va de même pour l'énergie, je suppose.
Oui.
Des bâtiments à énergie positive ou énergie neutre.
Exactement. Alors là, on était peut-être un petit peu plus avancé,
oui,
parce que les bâtiments, comme vous le disiez, les BPOS, les bâtiments à énergie positive, on a déjà eu des expérimentations. Mais ça va exactement dans le...
Tout ça est dans la frugalité, effectivement, à la fois du consommation d'énergie, de l'empreinte carbone et des matériaux employés.
Exactement. Et donc derrière, on peut aussi embarquer tout ce qui est recyclage, puisqu'il y a une grosse dimension aussi recyclage des matériaux.
C'est l'utilisation des remblais, par exemple.
Recyclage du foncier. Hein, tout à l'heure, en ouverture de l'émission, j'évoquais la non-artificialisation des sols. Recyclage aussi du foncier. Donc c'est une dimension très large, en fait. Hein,
quand vous dites recyclage du foncier, on inclut aussi la notion de réversibilité du bâtiment ?
Alors, réversibilité.
Par exemple, logement, bureau, logement.
Voilà.
Très à la mode, on en parle beaucoup.
C'est vraiment, cette dimension de frugalité. Elle est très large. C'est pour ça que ça nous intéressait, comme c'est quand même des notions, je dirais, encore très récentes et nouvelles, de réfléchir avec nos partenaires à cette question. Et pourquoi on a mis frugal et abordable? Parce qu'effectivement, comme vous savez, nous, on sort, que ce soit sur le logement social ou sur le logement intermédiaire, avec des niveaux de loyer maîtrisé, c'est-à-dire effectivement il faut que nos coûts de construction soient maîtrisés. Or on sait bien aujourd'hui, alors en plus je pourrais rajouter le contexte, je dirais malheureusement de la guerre en Ukraine et aujourd'hui des difficultés qu'on peut avoir sur l'approvisionnement des matériaux et donc aujourd'hui on est en train de vivre une période plutôt d'augmentation des coûts de construction du fait du contexte économique mondial.
Absolument, tout à fait.
Donc cette réflexion est d'autant plus importante aujourd'hui de se dire comment on va arriver à continuer à construire à des coûts maîtrisés, donc frugal et abordable, voilà, ça va bien ensemble.
C'est pour synthétiser ce que vous dites et ça a beaucoup 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 de sens, c'est comment allier finalement dans le modèle économique des contraintes qui peuvent paraître absolues, du style il faut aller vers l'écologie. vers la transition énergétique, et on sait que les coûts de construction sont plus élevés parce que ça coûte plus cher de basculer, mais en même temps, il y a une résilience sur le plan économique, ne serait-ce que par... Je parlais de l'énergie, mais je peux parler d'autres sujets, qui finalement s'amortissent très bien et trouvent leur convergence dans le modèle, comme quoi finalement, il y a quasiment plus de débat là-dessus, c'est extrêmement proactif. Alors justement, on est toujours sur ce Tour de France. Je vous propose, voilà, on a fait l'Auvergne-Rhône-Alpes, on va maintenant aller vers PACA, on va aller du côté de la Corse, si vous voulez bien, pour notre prochain épisode.
Hackathon des territoires pour l'habitat de demain, une émission proposée par CDC Habitat.
Alors, si ça vous dit, Anne-Sophie, on va descendre vers le sud et ensuite aller en Corse. Voilà, on va aller prendre le bateau. Et en direction du hackathon qui va faire monter la température, parce que les enjeux climatiques impliquent le réchauffement, forcément, bien évidemment, climatique qui est en intense augmentation. Et d'ailleurs, c'est assez stupéfiant, puisque les populations aujourd'hui en prennent de plus en plus conscience, un impact qui a bien sûr des répercussions sur l'habitat. C'est ce qui a été interrogé d'ailleurs lors de cette journée. Je vous donne le pitch. Comment adapter l'habitat de demain à l'épreuve du réchauffement climatique? C'est tout un programme. Et nous avons demandé à Claude Bertolino, directrice générale de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et membre du jury du hackathon, ce qu'elle retenait de cette journée. Je vous propose qu'on l'écoute et on réagit tout de suite après.
Claude Bertolino, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de l'établissement public foncier PACA et membre du jury du hackathon qui s'est tenu sur le thème « Comment adapter l'habitat de demain à l'épreuve du réchauffement climatique ?» On a parlé de confort d'été. Pouvez-vous nous parler des deux innovations qui ont été primées, s'il vous plaît ?
Oui, bien volontiers. Donc, une première innovation consistait sur le comportement des habitants et une sensibilisation à ce que c'est un confort d'été, donc avec des usages notamment à travers les volets, et une autre, ça c'était le grand prix du jury, et sinon le coup de cœur porté sur une autre manière d'appréhender le sujet, à savoir le verdissement et la récupération des eaux grises pour permettre justement d'avoir un circuit court d'alimentation en eau interne à la résidence et qui permettait une végétalisation qui permettait ce fameux confort d'été. C'était effectivement une manière d'approcher la réponse à cette adaptation à travers le comportement et avec ces formations à la fois aux habitants et à la fois aux intervenants sur la résidence.
Donc effectivement, le confort d'été, c'est un domaine dans lequel il y a énormément de nouvelles propositions. Ça inspire les acteurs de l'immobilier, les bâtisseurs.
Oui, surtout en milieu méditerranéen, où effectivement on constate que c'est pendant 2, 3, 4 mois, il peut y avoir nécessité, en évitant la climatisation, d'avoir besoin d'une ventilation et d'un confort d'été. Et donc, comment garder les habitats frais à ce moment-là de l'année? Et donc, c'était un peu l'objet de la démarche. Et vraiment, tout le monde a complètement adhéré avec des innovations, je vous dis, soit sur les comportements, soit sur le verdissement de la façade, de la toiture, des abords, travail sur l'existant, travail sur des projets en neuf. Et donc, vraiment, à chaque fois, avec cette approche à travers le comportement des habitants, où est le verdissement, où est des circuits courts à travers la récupération des eaux, parce que le sujet du végétal, c'est aussi comment on l'arrose en milieu méditerranéen, où la ressource en eau et les stress hydriques sont aussi très importants.
Extrêmement pertinent, cette réaction, puisque souvent, dans la transition écologique et environnementale, on oublie parfois de parler de la pression hydrique, qui est un vrai sujet et qui est un sujet qui touche d'ailleurs l'Afrique subsaharienne et continentale, avec une grande précarité, parce que savoir que quand il n'y a plus d'eau, effectivement, c'est là que les populations migrent et c'est important. Je retiens deux choses, c'est le verdissement, c'est important, les circuits courts. J'allais dire qu'en sous-jacent, je vois quelque part l'idée aussi d'une lutte contre les îlots de chaleur et de réintégrer la fraîcheur, parce qu'effectivement le verdissement vecteur d'un équilibre climatique. Anne-Sophie, comment votre groupe intègre-t-il le changement climatique et comment vous adaptez en conséquence votre parc logement à ces enjeux? Et votre réaction, bien sûr, sur ce qu'a dit Claude Bertolino.
Alors moi, je suis très heureuse, effectivement, que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse aient choisi ce thème du confort d'été. Parce que comme on avait souhaité avoir des hackathons territoriaux, voilà, c'est intéressant, effectivement, qu'ils aient fait émerger ce sujet. Ils avaient un sujet plus large, hein, qui était les changements climatiques, mais ils ont pris le confort d'été, d'autant plus que le confort d'été, aujourd'hui, on doit le traiter aussi dans le cadre, vous savez, de la RE 2020 dans notre jargon. Et aujourd'hui, donc nous, notre groupe, en fait, nous avons commencé à travailler sur l'adaptation au changement climatique. Alors, vous savez, nous avons beaucoup fait de réhabilitation thermique pour réduire les consommations énergétiques. Donc aujourd'hui, dans notre groupe, nous avons quasiment plus de patrimoine énergivore en F et G. Hein, c'est moins de 1% qui nous reste à traiter. Et donc, on a abordé un autre sujet qui est de se dire comment est-ce que notre parc est résilient par rapport aux événements climatiques majeurs. Donc ça peut être effectivement sécheresse, ça peut être des inondations, ça peut être des grosses tempêtes. Et donc on a mis là en 2021 au point une méthode sur un diagnostic de performance résilience pour voir comment par rapport à ces phénomènes majeurs et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, malheureusement on a connu assez récemment hein, dans la vallée de la Vésubie, hein, notamment. Donc voilà, comment demain on conforte notre patrimoine pour répondre à des événements comme cela. Alors ensuite, effectivement, sur tout ce qui est la réflexion sur les îlots de chaleur et donc les îlots de fraîcheur. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est un sujet majeur. Donc c'est vrai en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Corse, mais c'est vrai aussi, je dirais, si je prends la métropole du Grand Paris, hein, on le vit aussi. On le vit
On voit se poindre là en ce moment des régions qui sont frappées par des états de sécheresse et donc on voit tout de suite l'impact que ça peut avoir.
Voilà, ce qui veut dire qu'aujourd'hui
perceptible pour les usagers, je veux dire.
Tout à fait. Et donc ce qui veut dire que dans les projets aujourd'hui, quand on répond à des grandes consultations, cette dimension effectivement îlot de fraîcheur, nature en ville, hein, finalement, moi je dis
aussi
par la nature en ville, comment on remet davantage de nature en ville. Voilà, aujourd'hui on l'intègre de plus en plus et c'est comment aussi on l'intègre quand on fait ce qu'a tout le parc existant. Ils ont beaucoup travaillé là dans ce hackathon aussi sur finalement comment sur le neuf on arrive à le faire, mais comment on vient résoudre cette question du confort d'été aussi sur le parc existant. Donc comment on amène des îlots de fraîcheur. Donc il a été question effectivement de végétalisation, des toits, des murs. Mais il a été aussi beaucoup question, et on retrouve, je trouve, un fil rouge hein, de tous ces hackathons, qui était aussi comment on associe les habitants, comment en fait on fait de la pédagogie pour permettre aussi à chaque habitant, à chaque locataire en fait, de savoir mieux gérer ces temps de grosse chaleur pour maintenir aussi une fraîcheur dans son logement. Donc on voit bien que chaque fois, on a finalement un mix entre une solution technique ou environnementale et puis l'usage qu'il ne faut jamais oublier et l'accompagnement qu'on a à faire vis-à-vis de nos locataires.
C'est vrai que la concertation, c'est une très bonne démarche. Et la deuxième marche, finalement, c'est l'implication, après cette concertation, une prise en compte des habitants dans ces soucis. Parce que c'est vrai que, alors ça dépend des régions dans lesquelles on vit, mais quand on est dans ces régions-là, on sait ce que ça veut dire, les problèmes d'eau, par exemple.
Oui.
Et ce qui est intéressant dans le sujet, c'est que on voit bien que les occupants, les usagers, les clients sont très très sensibles à cela et ils demandent qu'à s'impliquer. C'est ce qui a été mis en relief effectivement dans cette démarche.
Voilà, et puis je dirais, puisque dans le groupe, nous irons aussi du patrimoine en Outre-mer.
Oui.
Donc vous avez effectivement évoqué le problème d'eau qui est aussi sur certains territoires ultramarins un réel sujet. Et finalement, la conception des logements en Outre-mer est très différente de celle en métropole. Et intègre beaucoup plus, en fait, ce qu'on appelle, nous, ici, le confort d'été. Et je pense aussi, et c'est l'intérêt d'être un groupe, c'est qu'on a tiré les enseignements des modes, effectivement, des modes d'habiter, des modes de construction, aussi en Outre-mer, pour nos régions, les plus chaudes en métropole. Donc voilà, on a aussi des synergies groupes à faire jouer.
D'ailleurs,
en ce sens.
Tout à l'heure, je crois que c'est Sophie Chabot qui en parlait, qui disait, voilà, l'idée, c'est d'avoir un process qui serait valable de région en région, pas forcément avec les mêmes matériaux, pour répondre effectivement spécifiquement aux besoins des territoires et à leur réalité territoriale.
Oui, alors c'est vrai que sur le hackathon de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui était intéressant, c'était il y a eu beaucoup de propositions sur des mises en réseau, en fait. Des mises en réseau et des partages d'expérience. Et comme on le disait, on est quand même un peu au début de ces démarches-là. Et donc le fait de pouvoir partager, d'avoir les retours des expériences, pour nous est aussi très important de pouvoir capitaliser et sur les différentes expérimentations. Et puis après, comme disent certains, parfois avec du bon sens, finalement souvent on revient à des solutions que nos grands anciens, de manière très pragmatique et avec beaucoup de bon sens, avaient mis en œuvre.
Et pourquoi pas, absolument, il y avait des chaînes ininterrompues, d'ailleurs illustrées dans de très jolis ouvrages, et même des séries télé qu'on revoit plus. Moi je me rappelle une série télé qui s'appelait Ardéchois Cœur Fidèle, sur les compagnons du devoir qui faisaient leur compagnonnage, effectivement, de revenir un peu à du bon sens dans une certaine mesure. Alors, c'est pas tout à fait fini, hein, cette série de hackathons. Je vous propose qu'on passe tout de suite. On s'achemine vers la fin de cette émission. On était ravis d'être avec vous. On se retrouve tout de suite après ça.
Hackathon des territoires pour l'habitat de demain, une émission proposée par CDC Habitat.
Rebonjour les amis, et comme d'habitude, le podcast est disponible sur tous les agrégateurs de podcasts, vous avez liké, commenté, toujours avec beaucoup de bienveillance, s'il vous plaît. Alors, c'est pas fini les hackathons, puisque le prochain hackathon va se tenir dans l'Est, à Strasbourg, le 31 mai. On est encore à la fin à la fin de cette session, et vous nous l'avez dit en introduction, Anne-Sophie, CDC Habitat, c'est aussi un gestionnaire de logement. La qualité de la relation de client et du service apporté est au cœur de votre mission. C'est autour de cette réflexion que la direction va entreprendre. C'est la question qui va leur être posée là pour le coup. Comment produire des logements évolutifs et abordables? On va pas dévoiler bien évidemment les travaux qui vont être menés, mais en teaser, on va dire, en mode teasing, c'est très à la mode de parler comme ça, quelques mots sur cette problématique, sur cette question que vous leur avez posée.
Oui, parce que tout à l'heure, on a parlé de frugal et abordable. Là, c'est évolutif et abordable. Donc, évolutif, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, c'est effectivement comment un immeuble qu'on va construire demain pourrait être à un moment donné de sa vie du logement, à un autre moment donné de sa vie du bureau, et ceci dans les deux sens. Donc, on a un peu la réversibilité, effectivement, des constructions qu'on peut faire. Et puis, ça peut être évolutif aussi par rapport à la composition familiale. Voilà, la famille s'agrandit, je dois accueillir un parent âgé. Voilà, comment mon logement va me permettre, en fait, d'assez simplement s'adapter à mes usages. Voilà, on retombe encore une fois sur les usages. Et puis aujourd'hui, avec les modes constructifs, notamment avec le bois, on peut probablement répondre plus facilement à ces questions-là, puisque bon, dans le bâtiment, on a quand même des infrastructures, je dirais, assez lourdes, qui parfois rendaient peut-être difficile l'évolutivité des logements ou la réversibilité, je dirais, du bâtiment. Là, effectivement, avec des nouveaux modes constructifs, je pense qu'il y a des solutions qui peuvent s'offrir à nous, et ça sera, le challenge des équipes le 31 mai à Strasbourg que de nous proposer des solutions à cette problématique.
Eh bien, on s'en fera avec Territoria et Imo, bien sûr, l'écho. C'est autour, donc, bien sûr, de cette réflexion. Je rappelle la question qui va leur être proposée le 31 mai. Comment produire des logements évolutif et abordable. Il est temps maintenant de conclure cette émission. C'est passé vraiment extrêmement vite. Je vous propose qu'on fasse une conclusion académique, si vous voulez bien. Tout de suite, on se retrouve après cette virgule musicale.
Hackathon des territoires pour l'habitat de demain, une émission proposée par CDC Habitat.
Le pitch de cette conclusion pour essayer effectivement de faire cette boucle par rapport à cette formidable initiative que vous avez lancée, un tour de France de l'émulation, de créer des agoras régionales qui permettent de faire se confronter différentes disciplines et d'aller vers des idées qui verront bien sûr le jour. L'idée, c'est de faire le tri entre cette formidable initiative, et comme quoi finalement, sans paraphraser cette fameuse émission sur M6, la France a quand même un incroyable talent. Alors, réhabilitation, restructuration de l'habitat en centre-ville, développement économique, commercial, mise en valeur de l'espace public du patrimoine, accès aux équipements et services publics. CDC Habitat se soucie déjà de ces enjeux majeurs, mais en plus, il s'est passé des choses incroyables chez vous, puisque vous avez mené ces hackathons qui ont d'ores et déjà eu lieu avec la clôture le 31 mai. Est-ce que vous me permettez de vous dire quelque chose, Anne-Sophie ? Un seul mot.
Un seul mot ?
Bravo. Ah. Voilà, j'avais envie de vous dire bravo, parce que vous impulsez un nouveau souffle chez CDC Habitat, qui était déjà d'ailleurs très dynamique, mais auquel on ne s'attendait pas. D'ailleurs, comme vous le savez, puisqu'on a interrogé tous nos confrères, ce que vous avez fait dans la démarche des hackathons, c'est extrêmement innovant. Cette initiative n'avait pas été faite dans le monde de la construction en général, parce que vous avez revu finalement à la fois la feuille de route, avec beaucoup d'humilité, puisque... Vous avez posé des questions simples par région et vous leur avez demandé de réagir. Vous avez réuni des personnes, que ce soit des usagers, mais que ce soit aussi des start-up, des associations de quartier, des élus. Du coup, vous avez créé, je ne sais pas si vous en avez conscience, une demande récurrente justement là-dessus. Question, forcément, Anne-Sophie Grave, est-ce qu'il y aura une suite et est-ce que vous serez partie prenante des prochains hackathons maintenant ?
Alors, quand vous aviez dit... Un mot, en fait, je pensais que la question s'adressait à moi.
Mais je vais vous la poser tout à l'heure, voilà.
C'était ah bon, bah je vais quand même y répondre, donc voilà. Maintenant.
Alors justement, si c'était un mot, ça serait...
Alors, c'est plutôt une expression. Non, moi, je pense que ce hackathon, ça a permis aussi de libérer les potentiels de créativité. Moi, j'ai une confiance énorme, si vous voulez, dans les capacités créatives de chaque être humain. Et je trouve que quand on se met ensemble et quand on est en collectif, voilà, les interactions font qu'à la fin, on a une solution à laquelle on n'aurait pas du tout pensé au démarrage.
C'est très
clair. Et c'est bien ce qu'on cherchait, si vous voulez. C'était effectivement d'avoir des solutions qu'on n'aurait pas trouvées, tout seul, avec toute l'expertise du groupe, hein, qui est une très très belle expertise. Mais néanmoins, voilà, il faut se challenger, se faire challenger par d'autres. Pour moi, c'est très important. Donc, en tout cas, moi, je suis très satisfaite déjà de ces 5 premiers hackathons. Donc, j'attends maintenant le dernier. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Beaucoup nous ont dit que c'était trop court. Voilà. Mais il vaut mieux avoir un goût de trop peu que de pas assez que de...
un goût de reviens-y, quoi. Bah,
voilà. Et donc, ça a donné des envies d'y revenir, je dirais. Et c'est tant mieux. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'enthousiasme, je dirais, une vraie dynamique qui s'est créée au niveau des territoires. Et maintenant, ce qui va être important pour nous, c'est la phase d'expérimentation de ces projets. Et on aura peut-être l'occasion de pouvoir en reparler, je l'espère, sur Radio Immo, une fois que ces expérimentations auront vu le jour et d'en tirer les enseignements et de voir si on les déploie ailleurs ou si on les amende. Mmh. Parce que ce qui est très important aussi dans les démarches d'innovation et dans la culture pour nous de notre groupe, alors comme vous l'avez dit, effectivement, c'est des démarches sur lesquelles il faut avoir une certaine humilité, parce qu'effectivement, il n'y a pas de solution toute faite, c'est réfléchir hors du cadre, mais ça veut dire aussi qu'on a le droit de se tromper. C'est-à-dire, y a des solutions qui vont marcher, il y en a qui vont peut-être pas marcher. Mais c'est la donnée de départ. C'est-à-dire, on expérimente, et quand on expérimente, on en tire les enseignements et on rebondit. Et on rebondit après. Et ce qui sera important, c'est de rebondir sur chacune des expérimentations qui sera menée.
Mais écoutez, vous avez répondu d'ailleurs à la question que j'allais vous poser, justement, c'est toutes ces réflexions, verront-elles le jour ? D'un point de vue académique, effectivement, tout ça sert de, entre guillemets, de testing aussi, pour mettre en œuvre, pas forcément tous les projets, bien évidemment, hein. Ça serait irréaliste de le penser, mais que tout ça produise du contenu, de l'intelligence justement collective. Je reprends un peu les fameux propos de Michel Serres, vous savez, sur un livre qu'il a publié il y a une trentaine d'années qui s'appelait Le Tiers Instruit, où il disait que le 21e siècle serait le sceau de l'intellectuel collectif, de l'intelligence collective, pour appréhender la complexité du logement, donc de la fabrique de la ville. Vous êtes rendu compte que vous avez créé dans ces hackathons finalement une initiative extrêmement originale et je pense que on sera ravis d'en voir à la fois l'émergence mais aussi la suite. Alors justement, si je vous demandais là comme ça une expression en guise de mot de conclusion, Anne-Sophie Grave, vous diriez quoi ?
Ben, je dirais que moi je crois à ce qu'on appelle l'innovation ouverte. Ou l'open innovation, puisque effectivement, normalement, c'est le terme choisi, mais c'est l'innovation ouverte, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour innover, effectivement, il faut s'ouvrir sur le monde extérieur, il faut s'ouvrir sur les usages, il faut aller chercher nos parties prenantes. On va travailler, là, nous aussi, au sein du groupe CDC Habitat, maintenant, sur comment un grand groupe comme le nôtre peut travailler davantage avec des start-up pour se nourrir aussi d'autres types de réflexions. Voilà, donc on est vraiment en train de structurer, au sein du groupe, une démarche d'innovation. Et, ces hackathons des territoires, c'était un peu une première brique, dans cette démarche. Et donc, on aura peut-être l'occasion de reparler d'autres aspects de cette démarche dans de prochains podcasts.
Avec grand plaisir, et je vais me permettre, si vous voulez bien, de conclure également sur une citation de Denis Diderot, dans les fameuses réflexions, vous savez, les maximes de Diderot, sur laquelle il parle de l'intelligence, et il dit la chose suivante, il dit « Le monde est composé de deux types de personnel, les personnes crédules et les personnes incrédules. L'homme crédule est souvent le trait d'un homme d'esprit ou d'une personne d'esprit qui voit dans le monde que l'immensité des possibles, tandis que le second, l'incrédule, ne voit dans le monde que ce qui est. C'est ce qui rend le premier téméraire et parfois le second pusillanime. Je pense que définitivement, chez CDC Habitat et vous, Anne-Sophie Grabe, vous êtes téméraire. Voilà. Et donc, vous ne voyez dans le monde que l'immensité des possibles. Je crois que c'est un mot de conclusion qui va bien assez à Caton.
Tout à fait. Merci.
Merci Anne-Sophie. Je rappelle que Anne-Sophie Grabe, vous êtes la présidente du directoire de CDC Habitat. Merci d'avoir passé cette 1h15 avec nous. Likez, commentez, podcast disponible. Donnez-nous aussi des idées. Dites-nous si ça vous a plu. L'idée, c'était de faire le tour de France à la fois du logement dans une certaine mesure, mais aussi de l'intelligence dans tous les territoires. Et on voit bien que les ancrages territoriaux produisent véritablement cette émulation. Merci Anne-Sophie Grabe, merci aux équipes de CDC Habitat de nous avoir permis de faire cette émission. Merci à Baptiste Plouchard qui était en régie. Merci à Fabienne Lissac, notre rédac' chef et reporter. Merci également à Bérénice Deville qui a fait je l'ai entendu tout à l'heure, faire l'interview pour ces fameux hackathons. Merci à toutes et à tous et on se retrouve, je l'espère, pour le prochain numéro.
Hackathon des territoires pour l'habitat de demain, une émission proposée par CDC Habitat. À retrouver sur Radio Immo et Radio Territoria.